25 ans, Vincent Lafargue vit à un rythme effréné. Un accident de moto va arrêter net sa course en avant. Donné pour mort, il va vivre ce que l'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente. Réanimé, il n'oubliera jamais ces instants hors du temps qui l'ont immergé dans une lumière indéfinissable et aimante. Se demandant ce qu'il allait faire de cette deuxième chance, de cette deuxième vie, il a choisi de se mettre au service des autres en devenant prêtre de l'Église catholique. C'est dans le bureau de sa paroisse, à Aigle, en Suisse, que je suis allé rencontrer Vincent Lafargue pour qu'il nous raconte cet événement étonnant aux confins de la vie et de la mort.
J'avais trois métiers déjà. Un le matin, un la journée et un le soir. Le matin, je faisais beaucoup de radio. Je faisais les matinales d'une radio chrétienne qui existait à l'époque à Genève. Et la journée, je travaillais quand même parce que la radio, c'est sympa, mais c'était bénévole et mon activité du soir me rapportait peu. Donc la journée, j'étais professeur de français langue étrangère, comme l'on dit, donc de français pour non francophones. Il y en a beaucoup à Genève, notamment grâce aux organisations internationales. Et puis le soir, j'étais comédien. Alors pas tous les soirs, mais de nombreux soirs. Donc je terminais souvent très tard et je commençais souvent très tôt, puisque faut avoir lu la presse pour faire la matinale. La presse sort relativement tôt, donc j'avais des nuits courtes.
Ça veut dire que vous aviez une vie à 100 à l'heure, comme on dit ?
Non, à 200. À 200 à l'heure. Ouais. Oui, vraiment, vraiment.
Quel rapport à Dieu vous aviez à cette époque-là ?
Alors j'avais un rapport qui se bornait, passez-moi l'expression, à l'engueulade. C'est-à-dire que j'étais souvent là pour lui demander des comptes. Il m'arrivait de rentrer dans des églises en dehors de toute célébration. D'ailleurs, je préfère encore toujours cela, rentrer dans une église silencieuse, voilà, et mettre une bougie, que sais-je. Et à cette époque-là, il m'arrivait d'y rentrer clairement pour lui demander des comptes, lui dire mais pourquoi le mal dans le monde, pourquoi tel événement est arrivé, pourquoi telle souffrance pour tel ou tel de mes proches. Je lui demandais souvent des comptes, j'étais souvent dur avec lui, pas du tout dans la gratitude en revanche. J'ai appris depuis à lui dire merci avant de lui demander quelque chose.
On peut dire que vous étiez un homme stressé.
J'étais un homme stressé, oui, vraiment, oui, tout à fait, tout à fait.
Alors qu'est-ce qui s'est passé, Vincent Lafargue, ce jour où vous étiez sur votre moto ?
Ce qui s'est passé, il faut peut-être commencer au début de la journée en revanche, parce que lors d'un cours que je donnais à mes étudiants, j'avais des étudiants adultes, hein, une de mes étudiantes me fait remarquer que j'ai un tic de langage. Et je vois que toute la classe rigole, je ne l'avais jamais remarqué, et je disais toujours le mot « vite ». D'où le stress. Hein. Mmh. On va vite prendre une petite pause, on va vite faire un exercice, je vais vite vous faire un café, etc., etc. Évidemment, je ne l'ai pas cru et donc ils se sont mis à compter les vites dans l'heure qui a suivi. Il y en a eu une quarantaine, donc ça veut dire presque un par minute. C'est dire que c'était vraiment un tic de langage. J'ai été surpris et puis en y réfléchissant dans la journée, finalement pas tellement, parce que je me disais, je sais bien que je vais vite, que je fais beaucoup de choses, je mène plusieurs métiers de front et encore d'autres activités bénévoles à droite à gauche, donc je fais beaucoup et je fais beaucoup de choses trop vite. Et quand on les fait trop vite, on les fait mal, on les fait à moitié. Donc j'étais le champion des oublis, des retards, d'un certain nombre de ces petites choses qui sont assez éloignées de la précision helvétique, surtout quand, comme moi, on est fils d'horloger. Donc voilà, c'était un tic qui rejaillissait dans ma vie et ça m'a fait réfléchir ce jour-là. Ça m'a fait réfléchir. Et le soir, quand j'ai pris mon scooter, mon gros scooter, j'avais un scooter moto, hein, comme on dit, il y a des hybrides un peu. Lorsque je me suis mis en route pour aller à ma répétition de théâtre, j'ai repensé à cela, d'autant plus que j'étais en retard, une fois de plus.
Donc vous alliez vite pour aller
donc,
à votre réunion.
Donc j'allais un peu nerveusement en ville, on peut pas tellement aller très vite parce qu'il y a des feux sans arrêt, donc mais on peut conduire nerveusement ou pas. Et là, je conduisais de fait assez nerveusement. Et puis arrivé à un feu rouge, en repensant à tout ça, j'ai dit au Seigneur dans ma prière spontanée, alors ça m'arrivait très souvent par contre de lui parler comme ça dans mes journées, mais dans le secret de mon cœur, pas à haute voix, hein. Et je me suis mis à lui dire, mais je sais bien que je vais trop vite, que je fais trop de choses, que ça va pas, que il faut que je freine, il faut que je m'arrête dans certains domaines, certainement. Mais je sais pas comment faire. Alors, si tu existes vraiment, et si t'es si malin, essaye voir de m'arrêter, toi. Et là, j'ai entendu ce qui ne m'était jamais arrivé, ça m'est arrivé souvent depuis, j'ai entendu une voix comme comme je parle actuellement, une voix tout à fait comme si quelqu'un me parlait face à face, une voix qui me disait « Est-ce que tu es bien conscient de ce que tu me demandes ?»
Mais une voix intérieure ?
Ah non, vraiment comme... Donc j'avais la musique à fond dans les écouteurs, ce qu'il faut évidemment pas faire.
En conduisant une moto.
En conduisant. Et c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. J'ai eu vraiment le sentiment de ne plus entendre la musique et d'entendre une voix exactement comme si, comme la voix du chanteur dans la musique que j'écoutais, quoi. Une voix tout à fait claire et pas du tout intérieure. Et je n'ai pas hésité. J'ai répondu à haute voix cette fois-ci. J'ai répondu oui à la question « Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu me demandes ?» J'ai répondu oui, deux fois, à haute voix. Oui, oui. Et le feu est passé au vert. Et donc j'ai démarré rapidement. Et j'ai atteint le 50 à l'heure dans une petite rue où c'était tout à fait autorisé d'ailleurs. Et j'ai pris une voiture de face, 100 mètres plus loin.
Et là, choc violent.
Alors très violent. Moi, je ne m'en souviens évidemment pas. J'ai cette perte de mémoire qui est très fréquente dans les chocs violents comme celui-ci, mais on me l'a raconté, les témoins me l'ont raconté. Donc j'ai vraiment pris la voiture de face. Aucun de nous n'a freiné, puisqu'on ne s'est pas vu. Donc c'est 100 à l'heure dans un mur. Hein. Elle allait à 50, moi aussi. Donc choc très très violent, j'ai rebondi d'abord sur la voiture, ensuite sur la voiture qui me précédait puisque le choc m'a renvoyé en arrière, et puis j'ai fini contre un muret qui était le long du trottoir. Choc si violent que paraît-il j'ai fissuré un endroit du muret, et on ne retrouvera jamais d'ailleurs une de mes chaussures qui a été projetée dans un jardin avoisinant probablement.
Visage, Thierry Lyonnais.
Alors Vincent Lafargue, suite à cet accident, vous êtes transporté à l'hôpital et oui. Vous vivez ce qu'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Alors, je suis transporté à l'hôpital dans un état que je ne crois pas du tout grave. Dans l'ambulance, je plaisante avec les ambulanciers.
Donc vous êtes encore conscient.
Je suis encore conscient. Et de fait, les ambulanciers et les premiers médecins à mon chevet pensent à de simples, entre guillemets, fractures, puisqu'il y en a quand même 14, mais de simples fractures sans danger de perdre la vie. Le problème, c'est qu'une de ces fractures a entraîné plusieurs veines dont l'une assez importante en les arrachant, et on ne se rend pas tout de suite compte que j'ai une hémorragie interne assez sérieuse. Et c'est cette perte de sang, m'a-t-on expliqué par la suite, qui fait que je me retrouve un peu après être passé dans la salle de radio, je me retrouve dans un état limite et en train de perdre la vie au point de faire un arrêt cardiaque dans le couloir qui me menait à la salle d'opération. Que se passe-t-il à partir de ce moment-là ? Donc la première chose, c'est que je me suis senti incroyablement bien, alors que je me voyais d'au-dessus de mon corps, donc depuis le haut du couloir.
Donc ce qu'on appelle une décorporation.
C'est ça.
Vous êtes séparé de votre corps et vous pouviez
voir ce
qui se passait.
Je vois pas du tout le moment où je me suis séparé du corps. Je vois qu'à un moment donné, mon regard est posé sur un blessé qui est sur un lit, des médecins qui s'affairent autour de lui, une sonnerie stridente dont je comprends après que oui, c'est l'arrêt cardiaque qui provoque cette alarme. Donc, je suis là, je me regarde, je comprends pas tout de suite que c'est moi. Et puis, j'ai cette tout de suite, D'abord, ce bien-être absolu, et je peux vous assurer qu'avant, quelques secondes avant, c'était pas le cas, hein. J'avais vraiment très très mal, même si on m'avait déjà administré, bien sûr, des calmants, de la morphine, etc. Mais quand on court, ou quand on se dépêche avec votre lit dans le couloir, ce qui était le cas, ça brinque-balle dans tous les sens, on a mal, hein. Et donc là, je me vois d'en haut, et j'ai tout de suite cette faculté que je retrouverai dans plusieurs témoignages après en m'intéressant à d'autres personnes qui ont fait cette expérience. J'ai tout de suite cette faculté de zoomer avec mes yeux. C'est assez génial. C'est comme si l'appareil photo était intégré dans l'œil, quoi. On peut zoomer très fort sur un détail de la scène, sur un détail du couloir, sur un détail de telle ou telle personne.
Comme si la notion d'espace et de temps n'était plus la même.
Alors, il n'y a plus du tout de notion d'espace et de temps. Absolument plus. D'ailleurs, pour moi, c'est une expérience qui a duré longtemps. Et les médecins m'ont expliqué que ça a duré moins d'une minute avant que mon cœur reparte, avant qu'on arrive à me réanimer.
Vous êtes bien, vous observez tout ce qui se passe dans la pièce.
Oui.
Et après, est-ce que vous êtes parti, comme on l'entend souvent dans les expériences de mort imminente, dans un tunnel pour aller vers la lumière?
Alors, j'ai vécu le début de cette phase-là. C'est-à-dire que je m'amusais avec mon zoom, je peux pas dire autrement. Vraiment, je regardais par curiosité ce qui se passait, absolument pas conscient de la gravité de la scène que j'avais sous les yeux et à peine conscient du fait que c'était moi qui me trouvais là sur le lit. Et j'avais presque envie, j'ai retrouvé ça d'ailleurs chez une personne qui a témoigné, que j'ai rencontré, j'avais presque envie de leur dire « mais arrêtez, vous me faites mal, arrêtez de vous acharner sur moi, parce que un massage cardiaque, c'est violent. Hein. Donc arrêtez, tout va bien, je suis bien, laissez-moi, tout va bien. » Et à ce moment-là, j'ai été comme aspiré par derrière, et, alors que j'étais déjà au plafond, si on veut. Hein. J'ai l'impression d'être contre le plafond de la salle. J'étais aspiré par derrière et tout de suite retourné vers alors ce tunnel de lumière ou cette lumière, c'est difficile à dire. Les seuls mots qui permettent de décrire cela, c'est de dire que c'est beaucoup plus fort que la lumière du soleil, mais absolument pas éblouissant. Donc c'est pas évident par rapport à nos concepts humains. Et je suis à ce moment-là attiré par cette lumière qui me plonge dans un bien-être encore plus absolu que celui dans lequel je me trouvais déjà. C'est silencieux, c'est une chaleur bienveillante et donc cette attirance vers cette lumière vers laquelle je semble flotter, cheminer tranquillement.
Une présence dans cette lumière ou pas ?
Une présence très claire. Mais que je n'arrive à définir que comme l'amour. C'est vraiment ce sentiment-là. J'ai pas ressenti ou vu une présence à forme humaine ou rencontré quelqu'un ou voilà. Mais je peux affirmer que je n'étais pas seul dans ce tunnel de lumière. Il y avait une forte présence, mais que je définirais comme l'amour absolu.
Et il s'est passé quelque chose en vous. Concernant votre propre histoire, est-ce que vous avez revu votre vie
Non, je ne suis pas allé jusque-là. Je dis ça parce que en ayant lu d'autres témoignages et rencontré d'autres personnes, cet épisode où l'on revoit sa vie comme en un instant, où on est projeté dans différents moments, où on rencontre peut-être des proches ou bien un être d'amour, ou bien... Je n'ai pas vécu ça. Je le regrette presque parce que, en entendant ces témoignages, je me dis, waouh, c'est génial.
Vous n'aviez pas, je crois, de connaissance des expériences de mort imminente avant?
Absolument aucune. Je n'avais jamais lu. Et je crois que j'avais entendu un jour de la part d'un de mes oncles scientifiques et athées, que, ouais, il y avait des gens, mais que, en fait, c'était un shoot d'endomorphine de la part du cerveau et que ça n'avait rien de non prouvable, de non mesurable. Quoi.
C'est ce que disent des personnes qui ne croient pas dans les expériences de mort imminente.
Absolument.
Quand on vous dit ça à vous, qui l'avez vécu, comment vous réagissez?
Alors, je commencerai par dire, si on me l'avait dit avant, j'aurais absolument validé cette thèse-là, en disant, bah oui, sûrement. J'étais pas du tout un mystique avant. Aujourd'hui, j'aime bien les deux théories, c'est-à-dire que j'aime bien dire, il y a certainement une réaction du cerveau qui se sent mourir. Et pourquoi pas? certainement. Mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Et donc, j'aime bien aussi me dire qu'il y a autre chose. Il y a autre chose que peut-être la science ne peut pas expliquer pour l'instant, aujourd'hui. Ce sont d'ailleurs les mots du chirurgien à qui je me suis confié par la suite. Parce que quand j'ai eu cette, quand cette vision m'est revenue, très clairement, vraiment, avec des détails, le dialogue du chirurgien avec son assistant, le numéro qui se trouvait sur le mur à cet endroit-là, enfin, des choses extrêmement précises. Lorsque j'en ai parlé à l'un des chirurgiens qui était là, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il n'a pas écarté mon témoignage, il m'a pas dit c'est des bêtises. Lui m'a dit, ben, je vous crois parce que c'est vrai. Le dialogue que vous donnez est celui que nous avons eu, les détails que vous donnez sont précis et exacts. Sauf que je peux pas vous l'expliquer parce que vous étiez, et c'est là qu'il m'a dit, vous étiez en train de mourir. Vous étiez en train de mourir et vous ne pouvez pas scientifiquement vous souvenir de tout cela et avoir vu tout cela. Seulement, c'est exact ce que vous dites. Donc, je vous crois et vous n'êtes pas fou. Vous devriez vous renseigner, rencontrer des gens, lire quelques livres. Vous verrez que vous n'êtes pas seul à vivre ça. Mais je ne peux pas vous l'expliquer.
Vincent Lafargue, qu'est-ce qu'on se dit quand on échappe de si près à la mort ? Est-ce qu'on a le sentiment d'avoir de la chance, ou d'avoir de la chance d'avoir une deuxième vie ? Ou est-ce qu'on regrette de ne pas être parti vers cette lumière qui avait l'air tellement remplie d'amour ?
Alors, regret, non, absolument aucun. Sur le moment, peut-être que si on m'avait posé la question au moment où j'étais au plafond, hein, et si on m'avait dit, certains le racontent, certains disent, on m'a posé la question, est-ce que tu veux partir, est-ce que tu veux rester? Peut-être que là, j'aurais dit que je voulais partir parce que j'étais tellement bien. Mais évidemment que non, quand on connaît la vie, la beauté de la vie, et j'ai la chance en plus de vivre dans un endroit extraordinaire, ici en Suisse, et dans des paysages de montagne magnifiques, et puis j'ai une vie magnifique. J'aurais donné n'importe quoi en connaissant la suite de mon existence pour pouvoir la vivre, évidemment. Donc, aucun regret. Mais votre question allait plus loin. Qu'est-ce qu'on se dit? D'abord, c'est un coup de batte de baseball. La première fois qu'un médecin m'a dit, et là c'était à l'hôpital, la première fois qu'un médecin m'a dit, est-ce qu'on vous a expliqué ce qui s'est passé? J'ai dit non. Et l'accident, je savais, mais le reste pas. Et que ce médecin m'a dit, eh bien, vous avez frôlé la mort. On vous a ramené de justesse, mais vous avez failli mourir. Eh bien, ça fait vraiment tout drôle. J'ai vraiment le sentiment d'avoir pris une batte de baseball dans la figure. Et on se dit, OK, j'avais 25 ans, c'est l'âge où on est immortel.
On s'imagine immortel.
Voilà, rien ne peut nous arriver. On a la vie devant nous et ça nous paraît très, très long. Et tout à coup, on réalise que non, ça peut être très court. J'ai un de mes cousins qui est mort dans un accident de la route quelques années auparavant.
Et ça, on s'imagine que ça n'arrive qu'aux autres.
Et exactement. Mmh. Et tout à coup, on se dit, eh ben, ça aurait pu être moi aussi. Donc là, il y a un sentiment de gratitude pour cette partie gratuite.
Est-ce qu'on se dit, pourquoi moi ? Pourquoi j'ai eu cette chance ? Par exemple, mon cousin est mort, pourquoi j'ai eu cette chance ?
Ensuite, c'est très fort. D'abord, il y a cette gratitude pour cette partie gratuite. On se dit, j'ai une deuxième vie, et c'est vraiment l'expression que je continue d'utiliser aujourd'hui, j'ai une deuxième vie. J'ai eu la chance d'avoir une deuxième vie. Mais ensuite, très rapidement, arrive la culpabilité, ou une forme de sentiment de culpabilité, ou je dirais une forme de responsabilité par rapport à cette deuxième vie. D'abord, d'être beaucoup plus à l'écoute des gens qui ont perdu un proche en bas âge ou dans sa jeunesse, et de se dire, moi j'ai eu la chance de continuer de vivre, ces personnes-là ont perdu un proche. Et dans un premier temps, on se sent mal par rapport à ces personnes-là, lorsqu'elles sont, comme pour ma part, dans notre famille. C'est dur d'affronter leur regard, de dire pourquoi moi je suis toujours en vie et leur fils ou leur neveu ou leur plus. Bon,
Et ça, ça ne fait pas partie de la révolte que vous aviez avant, comme vous nous avez dit au début de cet entretien, vis-à-vis de Dieu?
Complètement, bien sûr.
Pourquoi certains vont mourir? Pourquoi certains vont être malades? Pourquoi d'autres sont bien portants?
Absolument. Et la révolte est encore plus forte quand on découvre que nous-mêmes, alors que moi, je n'avais pas d'épouse ou d'enfant, de personne à charge, pourquoi est-ce que moi, je suis toujours en vie alors que des gens qui ont laissé femme et enfant sont morts?
Comment vous expliquez ça aujourd'hui?
Alors, essayer de l'expliquer, c'est rentrer dans un mystère absolu. Surtout si on met Dieu dans l'équation. C'est pas Dieu qui fait mourir. La mort, ça reste un mal en soi, les philosophes nous le disent, même si pour nous chrétiens, il y a certainement la vie éternelle derrière, c'est une certitude de foi, et il y a Dieu. Mais c'est pas pour autant que c'est Dieu qui enclenche ce passage-là. Donc, mettre Dieu dans l'équation, c'est très délicat.
Mais donc ensuite, c'est mettre Dieu dans l'équation du mal, de la souffrance et de la mort, c'est très délicat.
À mon sens, c'est très délicat.
Est-ce qu'on peut l'extraire s'il est à l'origine de tout?
Il est à l'origine du bien, du bon, et la souffrance n'est pas le contraire du bien ou du bon, c'est l'absence d'un bien normalement dû. Les philosophes nous le disent, et les théologiens aussi, depuis saint Thomas d'Aquin notamment. Si vous voulez, le trou dans un pantalon, c'est pas le contraire du pantalon, c'est l'absence du tissu qui devrait être là. Donc, le mal, si Dieu est le bien, le mal, c'est l'absence de Dieu. Et à partir de là, on peut pas dire que Dieu est à l'origine du mal, parce qu'alors il serait à l'origine de sa propre absence, ça n'aurait aucun sens. Et par conséquent, c'est très délicat de l'inclure dans l'équation de la souffrance et de la mort, en tant que la souffrance et la mort sont des mots, M-A-U-X. Par contre, le Christ a souffert sur la croix, il est mort avant de ressusciter. Et donc, c'est cet élément-là, je dirais, que l'on peut inclure, si l'on est chrétien, dans la traversée d'une souffrance et même la traversée de la mort. De dire, bien, il est là avec moi, il souffre avec moi sur ce lit d'hôpital, sur cette croix, il est cloué comme moi je suis fixé à ce lit et il est avec moi. Encore aujourd'hui, il me semble que c'est la seule parole que l'on peut donner à quelqu'un qui souffre et qui est croyant. Surtout pas de lui dire, comme dans les siècles précédents, « Ah, c'est bien, tu gagnes ton ciel, il faut souffrir pour gagner son royaume. » C'est une hérésie absolue. On le dit aujourd'hui, le pape François le dit aussi d'ailleurs. La souffrance ne paye pas en aucune manière le ciel de qui que ce soit, mais la traversée en ayant conscience de la présence de Dieu à nos côtés peut être un grand réconfort, oui.
Visage, RCF.
Vincent Lafargue, après cette expérience de mort imminente, ce retour à la vie, quelque part, vous vous dites, j'ai une deuxième chance, j'ai une deuxième vie. Est-ce que cela vous pousse quelque part à vous demander ce que vous allez faire de cette deuxième chance? Est-ce que lorsqu'on a cette deuxième chance, on sent une responsabilité?
Complètement.
Et de quelle manière?
Alors, pour ma part, elle a mis du temps à se développer, à aboutir à quelque chose de concret. Mais dès les premiers mois, je dirais même dès le lendemain de cette annonce du médecin qui me dit « vous avez frôlé la mort », je me dis « qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce que je vais faire de cette deuxième vie qui m'est gratuitement donnée ?» Je ne l'ai évidemment pas méritée, en tout cas dans ma perception des choses. Je n'étais vraiment pas un saint, on peut le dire. Voilà, la première question est « pourquoi moi ?» mais ensuite est « qu'est-ce que je vais en faire ?»
Excusez-moi, vous n'avez pas eu cette interpellation quand vous étiez dans la lumière?
Non.
Dont vous avez parlé? Parce que certaines personnes qui ont vécu des EMI ont revu leur existence,
oui,
et ont eu cette interrogation « qu'est-ce que tu as fait de ta vie ?»
Oui, et
vous,
notamment,
vous l'avez pas vécu,
notamment sur la question de l'amour. Comment as-tu aimé? C'est l'interrogation que rapportent beaucoup d'expérienceurs, puisqu'on utilise ce néologisme aujourd'hui.
Face à cette lumière d'amour,
oui,
ils ont cette interrogation « comment as-tu aimé ?»
Exactement.
Sans jugement.
Jugement, non, non. Et alors moi, je dirais que je ne l'ai pas eu explicitement. Par contre, je l'ai ressenti très fortement ensuite. Comme j'avais approché ce tunnel d'amour, quelque chose en moi est né de cet ordre-là, de dire, eh bien, maintenant, peu importe ta vie d'avant, dans cette deuxième vie, tu dois aimer.
C'est une évidence.
C'est une évidence.
Pourquoi est-ce que c'est aussi évident que c'est ça qui est important dans l'existence?
Je ne saurais absolument pas le dire. C'est de l'ordre, pour moi, vraiment de l'évidence, mais sans qu'il y ait de raison à cela. exactement comme le fait de respirer est une chose à laquelle on ne pense pas, pourtant on le fait énormément de fois par minute. Donc pour moi c'est une évidence que l'essentiel c'est l'amour que l'on donne autour de soi.
Et ouais, c'est important ça, ça veut dire quoi le sens de la vie? Voilà. C'est d'aimer.
Ouais, pour moi, c'est de donner de l'amour, de l'affection, de la prévenance, de l'attention, de voilà. Pour moi, c'est bien avant que je rattache cela au message du Christ, bien avant que j'en fasse pour moi une vie donnée dans la prêtrise. C'est une évidence. Et si cette évidence pouvait être, disons, un point important rationnellement auparavant dans ma vie, je pouvais le comprendre par ma raison. Là, c'est vraiment venu du fond des tripes. Je le ressens en moi comme quelque chose d'absolument essentiel.
Alors, Vincent Lafargue, il y a bien des manières d'aimer.
Dieu merci, oui.
Vous avez fait ce choix particulier de devenir prêtre.
Oui, et ça a mis du temps. Mmh. C'est-à-dire que, à partir du moment où je me suis dit, bien, il faut que je change ma vie. Vraiment. J'ai une deuxième vie, donc c'est l'occasion de vivre d'autres choses ou de vivre différemment ce que je vivais déjà. Je me suis mis en quête, et le mot quête est important, c'est une quête spirituelle. Je me suis mis en quête de ma vocation. Je sentais confusément que j'étais appelé à quelque chose, je ne savais pas quoi. Et si on m'avait dit prêtre à l'époque, j'aurais éclaté de rire.
Parce que ça aurait pu être trois vocations liées à vos trois métiers.
Absolument.
Ça aurait pu être journaliste dans une radio, ça aurait pu être professeur, c'est une vocation.
Oui.
Et ça aurait pu être comédien aussi, c'est
oui.
une vocation.
Oui.
Si on le vit vraiment.
Mes frères m'ont dit le jour de mon ordination sacerdotale que j'avais réuni les trois. C'est-à-dire que je continue à parler dans un micro à l'église, mm-hmm. je continue à parler devant des gens, même si c'est pas une scène.
Et d'enseigner.
Et je continue d'enseigner. Mm-hmm. Donc, m'ont dit, tu as réuni tes trois précédents métiers en un seul. J'avais jamais vu ça.
Mais ça a mis du temps. Vous n'êtes pas devenu prêtre, vous n'avez pas décidé quelques mois après votre accident.
Non, ça a mis beaucoup de temps. Donc, j'ai opéré cette quête en passant par l'orientalisme. J'avais déjà des tendances à aimer ce qui vient de l'Orient. Mmh. Je fais de la calligraphie, je suis un buveur de thé. Tout cela, évidemment,
et puis les
arts martiaux aussi.
Et vous étiez attiré par le bouddhisme.
Et donc, voilà, j'ai été attiré par le bouddhisme, j'ai été attiré par l'hindouisme. J'ai des amis qui sont de cette religion-là. J'ai été recherché, vraiment. J'ai été aussi voir du côté des soufis musulmans. J'ai recherché vraiment un certain nombre dans plein de religions. Ce qu'en fait j'allais finir par creuser dans la mienne. Et j'ai été très frappé au cours de cette quête par une parole du Dalai Lama qui disait « Ne vous convertissez pas au bouddhisme. Si vous n'êtes pas né dans cette religion, creusez la religion dans laquelle vous êtes né, si vous avez eu la chance d'en recevoir une », ce qui était mon cas. J'ai été frappé par cette parole-là, par cette sagesse-là, je peux dire, et je me suis dit, bon, alors il faut que je creuse la religion dans laquelle je suis né, dans ma propre tradition, et d'abord dans le christianisme, avant de creuser encore une confession, qui est la confession catholique. J'avais confirmé mon baptême, mais tout de même. Et en creusant davantage, j'ai découvert que ce que je recherchais dans cette quête, une forme de sérénité, la prière, le silence, la méditation, l'écoute des personnes, le fait de servir les personnes, d'essayer de leur apporter un peu d'amour dans un monde qui n'en apporte pas dans les pages des journaux tous les matins, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait un moyen de vivre cet appel-là, cette vocation-là, à travers la prêtrise. Et je m'en suis rendu compte au hasard, si toutefois le hasard existe, et s'il n'est pas le nom que prend Dieu quand il agit incognito, je m'en suis rendu compte au hasard d'une émission de radio. Et c'est après coup qu'un confrère m'a dit « Dieu prend très souvent les chemins qui nous conviennent pour nous parler. Et tu étais animateur de radio, c'est à travers une émission de radio qu'il t'a à nouveau rejoint. »
Une émission de radio dans laquelle vous avez entendu
un prêtre. Un prêtre.
Qui parlait de sa vie.
Qui parlait de sa vie, et je n'ai pas du tout compris que c'était un prêtre au départ. Parce que cet homme parlait de la poésie, au moment où j'ai pris l'émission en cours. Je suis un très grand amateur de poésie. Il parlait de cinéma, il parlait d'art. J'aime énormément le cinéma aussi. Il parlait du silence, de belles paroles. Et je me disais, c'est formidable, cet homme-là, il apporte tout ça aux autres. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Et impossible de le savoir, il n'y a pas de podcast en plus à l'époque. Donc j'avais pris l'émission en cours de route. À aucun moment de la fin de l'émission, on a dit le nom de la personne ni son métier. Donc ça a piqué ma curiosité. Et je me suis retrouvé, comme Dieu merci, c'était un feuilleton, cette émission. Et que l'heure à laquelle cette émission passait, j'étais libre le surlendemain. Puisque je terminais mes cours et je me retrouvais dans ma voiture, eh bien, je me suis dit, là, je vais pouvoir écouter. Et en écoutant le début, le générique, j'ai fait 100 mètres à nouveau, mais en voiture cette fois-ci. J'ai fait 100 mètres et j'ai dû m'arrêter sur le trottoir parce que c'est comme si j'avais pris la foudre sur ma voiture. J'ai entendu que, ben voilà, on était chez l'abbé Untel, qui est prêtre, tout près de chez moi d'ailleurs.
Et là, vous vous êtes dit tout de suite, pourquoi pas moi ?
Absolument pas.
Non.
Je me suis dit, quoi, ce gars-là, il est curé? Mais c'est pas possible. Je voyais pas un curé aller au cinéma, aimant la poésie, parlant des gens, parlant des femmes, comme il en parlait, d'une manière magnifique et romantique. Et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, cet homme-là, il est pas curé. Et si, je voyais un curé célébrer la messe, mais c'est à peu près tout ce que je savais de cette vocation-là.
Et donc, vous avez voulu le rencontrer?
Et donc, j'ai écouté d'abord l'émission 45 minutes, moteur en marche sur le trottoir. Et à la fin, j'ai pris le téléphone et j'ai d'abord appelé la radio. On m'a expliqué, moi qui étais animateur de radio, on m'a expliqué qu'évidemment, c'était pas en direct, qu'on pouvait pas me le passer. Enfin, voilà. J'ai cherché son numéro, je l'ai appelé. Et tout de suite, il m'a dit, je me suis entendu lui dire au début du téléphone, eh bien, écoutez, je viens de vous entendre à la radio, ça va vous paraître complètement absurde, mais je crois que je suis appelé à faire la même chose que vous. Et tout en le disant, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et il m'a donné rendez-vous quelques jours après. Et j'ai admiré beaucoup cet homme, que j'admire toujours d'ailleurs. J'ai beaucoup admiré cet homme parce qu'il m'a pas dit « Ah, oh, c'est merveilleux, on manque de prêtres, c'est formidable, il faut que tu nous rejoignes. »
Il n'a pas essayé de vous récupérer tout de suite.
Absolument pas. Mm-hmm. Et il m'a, au contraire, il a passé au crible ce que je lui racontais, mon accident, cette période de quête qui avait quand même duré 2 ans après mon accident, et de dire « Ben, rencontrez des gens, regardez, il y a plein de métiers qui sont au service des autres, qui donnent de l'amour aux autres. Réfléchissez, puisque vous avez une deuxième vie, vous avez le temps. Donc prenez le temps, réfléchissez, rencontrez des gens. » Puis en même temps, il m'a donné quelques adresses concernant bien le séminaire des prêtres atypiques comme lui d'ailleurs, qu'il me faudrait aller rencontrer pour voir que tous les prêtres sont peut-être pas comme je les avais stigmatisés dans un premier temps.
Après cette Agnus Dei de Samuel Barber, nous poursuivons sur RCF cette émission Visage en votre compagnie, Vincent Lafargue. En quoi cette EMI a changé votre vie d'homme et de prêtre?
En quoi ça change ma vie? Bien, ça change ma vie d'abord parce que je n'ai absolument plus peur de la mort, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Je ne serais jamais rentré dans une pièce où il y avait un mort auparavant. Aujourd'hui, bien, dans ma vocation, c'est une chose qui m'arrive régulièrement.
L'accompagnement des personnes en fin de vie.
L'accompagnement des personnes et ensuite même la prière autour d'une personne décédée et évidemment la célébration. Et je ressens une immense tendresse pour cette enveloppe qui a contenu une âme et qui est là devant moi. Et par rapport à ma propre mort également, une immense tendresse et de me dire bah ça arrivera et ça arrivera quand ça doit arriver. Si c'est dans 10 minutes, c'est pas grave. C'est un peu gênant pour votre émission, mais c'est tout, c'est pas grave pour moi.
On espère qu'on ira jusqu'au bout de l'entretien.
mais voilà, ça c'est la première chose.
Plus peur de la mort.
Plus peur du tout de la mort. La deuxième chose qui a changé énormément, c'est une nécessité, une volonté de servir et, comme je vous le disais, de répandre l'amour. Et comme aujourd'hui, pour moi, l'amour, c'est le message du Christ, eh bien, de répandre l'amour comme message du Christ et de mettre cela en avant. La miséricorde infinie de Dieu, je passe mon temps à casser ces vieux clichés d'un Dieu juge à grande barbe qui nous attend au contour.
Voilà. Ce que vous dites, c'est important, là, parce que beaucoup de gens ont peur de la mort, qu'ils ont peur d'être jugés.
Exactement.
Parce qu'ils ont peur de ce Dieu barbu ou pas barbu, mais qui va les juger sur leur comportement. Vous croyez à cette notion-là de jugement ?
Oui, mais dans un sens très différent de cette image-là. Le fait d'avoir fait de l'hébreu lors de mes études de théologie m'a fait découvrir que le concept même de jugement, le livre des juges d'ailleurs dans l'Ancien Testament le dit très bien pour peu qu'on l'étudie un peu, le concept même de jugement pour un esprit hébraïque n'a rien à voir avec notre idée d'un jugement. Au contraire, c'est un salut dernier vers lequel nous allons. Le concept du juge pour un esprit hébraïque, c'est un sauveur. Il est là pour nous sauver, pas pour nous enfoncer. Et donc, pour moi, il existe bien un jugement dernier, effectivement, mais je l'appellerais volontiers un salut dernier. Celui qui nous attend pour nous prendre dans ses bras et nous emmener vers la vie éternelle.
Comme le Père dans le retour de l'enfant prodigue de
l'Évangile. Absolument. Et il n'est pas là pour nous dire « tu as dilapidé l'héritage que je t'avais confié » pour reprendre votre exemple et dilapidé dans de mauvaises entreprises. Absolument pas. Il est là pour nous dire « tu reviens à moi, c'est ma seule joie, c'est tout ce qui compte ».
Donc ça veut dire que la mort est un retour vers l'amour inconditionnel que vous avez vu dans cette lumière ?
Pour moi, oui, très clairement. Et ça fait partie de ma prédication à partir des textes bibliques qui, lorsqu'on se donne la peine de les creuser, le disent. Je ne sais pas d'où on a pu tirer l'image d'un Dieu sadique, juge, pervers, lorsque même dans l'Ancien Testament, on a des psaumes qui nous parlent d'un Dieu qui n'est que tendresse, miséricorde infinie, tout amour. Pas besoin d'aller dans le Nouveau Testament pour lire ça. Donc, voilà, ça a profondément, je dirais, marqué le prêtre que je suis aujourd'hui et ça continue de me marquer. Une autre chose qui est nettement plus désagréable, et j'ai découvert en discutant avec d'autres expérienceurs que ce n'est pas rare, même si ça ne fait pas partie des trois critères les plus fréquents, qu'au fond on vient de passer, ces trois critères qui sont ne plus avoir peur de la mort, se mettre au service des autres d'une manière ou d'une autre, et changer de vie. Très souvent, les gens cherchent à changer de lieu, de vie, voilà. J'ai vécu vraiment ces trois éléments-là, et je les vis. Mais il y en a d'autres. Si on prend les écrits notamment d'Elisabeth Kübler-Ross, elle donne jusqu'à 9 ou 12, je crois même, caractéristiques de ces personnes-là.
Elisabeth Kübler-Ross, qui est une grande spécialiste de l'accompagnement des personnes en fin de vie.
Tout à fait. Ouais. Et je me suis aperçu que j'avais, en plus, un de ces éléments-là. Et je vous assure qu'il n'est pas facile à vivre.
Lequel ?
Ce sont des antennes à hypocrisie. Et ça, j'ai remarqué en discutant avec d'autres personnes que après une expérience de mort imminente, on est quand même assez nombreux à avoir ce sixième sens, si j'ose dire, ce sixième sens face à l'être humain qui est en face de nous ou qui est dans le poste de télévision ou qui est, voilà. Quand un discours est faux, cela sonne immédiatement faux à mon esprit. Quand un discours est flagorneur, mièvre, qu'il y a quelque chose qui ne sonne pas juste, je le ressens au plus profond de moi. Et malheureusement, l'Église n'est pas exempte de cela. Elle est 100% sainte, mais à 100% composée de pécheurs. Moi le premier. Et donc, ça n'est pas très confortable dans un ministère où l'on rencontre constamment des gens, que ce soit des confrères ou que ce soit des paroissiennes, des paroissiens ou des gens en recherche. Ça n'est pas toujours confortable d'avoir ces antennes-là.
Mais ça doit vous servir dans l'accompagnement spirituel, j'imagine.
Énormément. Mais en même temps, il faut bien se garder de juger la personne à travers cela. On ne juge personne. On peut juger les actes de quelqu'un, mais jamais la personne elle-même.
Vincent Lafargue, j'aimerais comprendre quelque chose par rapport à votre choix d'être devenu prêtre dans l'Église catholique. Quand on fait cette expérience de mort imminente, tous les témoignages que j'ai pu lire... Et il y en a beaucoup aujourd'hui, il y a des milliers de témoignages qui sont recueillis dans le monde entier.
Oui.
Toutes ces personnes qui ont fait cette expérience de rencontre avec cette lumière décrivent parfois que dans cette lumière, il y a un personnage. Des chrétiens y ont vu Jésus, parfois Marie, Des bouddhistes y ont vu le Bouddha, des hindous y ont vu Vishnu, ou Krishna ou Shiva. Ça veut dire que cette lumière, c'est qui ?
Je vis dans une région de montagne. Et lorsque vous demandez aux gens d'un village de vous dessiner la montagne qu'ils ont sous les yeux, ils vont vous la dessiner, que ce soit le Mont Blanc, le Cervin, que sais-je. Et si vous demandez aux gens de la vallée qui se trouve de l'autre côté de la montagne de vous dessiner cette même montagne, ils vont faire un dessin complètement différent. C'est la montagne la même pourtant, telle qu'ils la voient eux. Et si vous comparez les deux dessins, et si vous montrez le dessin de l'autre côté de la montagne à la personne qui est de notre côté, elle va vous dire « mais non, c'est pas le Cervin, mais non, c'est pas le Mont Blanc, c'est autre chose ». Et pourtant, c'est la même montagne. Pour moi, Dieu, c'est cela. C'est la même montagne, c'est le même Dieu. Mais nous avons, selon les religions, d'autres manières de le voir, et si l'on reprend l'image de la montagne, poussons-la jusqu'au bout, il y a d'autres sentiers pour atteindre ce sommet qu'est Dieu. Lorsqu'on fait de la montagne, on se rend compte que très souvent, les sentiers qui viennent de plusieurs versants se rejoignent sur une crête ou quelques centaines de mètres avant le sommet. Et probablement que nos religions se rejoignent les unes les autres, peut-être pas toutes, mais certains versants adjacents se rejoignent dans certaines façons de rejoindre Dieu, la prière, le silence, la méditation, que l'on retrouve dans les religions que vous avez citées, par exemple. Pour moi, Dieu, c'est l'amour, avec un A majuscule. C'est un sommet, peut-être et certainement le sommet avec un grand S, mais il y a plusieurs manières d'atteindre ce sommet. Et ce n'est pas que moi qui le dis, dans notre religion catholique, Vatican II le dit très bien. Il y a plusieurs manières de rejoindre Dieu, plusieurs vérités qui ne sont pas incompatibles les unes comparées aux autres. Plusieurs manières de rejoindre ce Dieu. Mais pour moi, cette lumière blanche, cet amour inconditionnel, c'est Dieu, tout simplement.
Alors justement, quand on dit c'est Dieu, est-ce que c'est le Père dont Jésus nous a toujours enseigné qu'il fallait nous tourner vers le Père ? Parce que quand il enseigne la prière, il ne dit pas « priez-moi », il dit « priez le Père ». Est-ce que cette lumière chargée d'amour inconditionnel que vous avez vécue dans votre EMI, c'est la présence aimante du Père, de cette au-delà de tout, comme disent les mystiques, Saint Grégoire de Nice ou Grégoire de Nazianze, au toit, l'au-delà de tout. Est-ce que vous pensez que vous avez vécu quelque part une de ces expériences qu'ont vécu les mystiques quand ils ont eu une rencontre avec l'inconnaissable, au-delà de tout ?
Oui, je n'irai pas jusqu'à parler de rencontre parce que, encore une fois, je ne suis pas allé au bout de ce tunnel de lumière, contrairement à d'autres. J'ai le sentiment d'avoir vécu cette rencontre dans mon cœur, un début de rencontre qui m'appelle à la rencontre perpétuelle que je vis tous les jours. Je rencontre Dieu tous les jours dans ma vie, à travers les gens qui me sont, qu'il m'est donné de rencontrer, à travers chaque visage, à travers la prière, le silence, la célébration de l'Eucharistie quotidienne, évidemment. Je rencontre Dieu tant de fois dans mes journées. Mais cette première rencontre plus spéciale que les autres m'a amené à avoir soif de nouvelles rencontres, à creuser cette mystique, je dirais. Maintenant, quant à savoir quel Dieu j'ai rencontré, je vous dirais que ça m'est complètement égal. Pour moi, c'est Dieu, point. Qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle le Père, qu'on l'appelle le Fils, puisque dans notre foi, le Fils est Dieu lui aussi, qu'on l'appelle l'Esprit-Saint, cette force d'amour qui souffle entre les êtres. Pour moi, ça n'a aucune importance. C'est Dieu vers qui ma vocation m'amène à conduire les gens et c'est Dieu vers qui j'espère aller lorsque cette rencontre se fera à nouveau plus précise.
Visage, l'expression de l'être.
Monsieur Lafargue, vous nous avez dit tout à l'heure que face à cette deuxième vie qui vous était donnée, vous avez eu un sentiment très fort de devoir faire quelque chose de votre vie, une sorte de responsabilité de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque d'une course en avant ou de vivre une culpabilité de ne jamais faire assez ? Et alors, ça, on sait combien ça peut menacer les prêtres.
Oui, c'est mortifère. Je suis en réajustement constant dans ce domaine-là. C'est-à-dire que je suis un activiste, J'ai énormément de peine à dire non. J'apprends à dire non parce que c'est nécessaire, mais j'ai énormément de peine à dire non. Je suis un passionné des gens, de la vie, d'énormément de domaines. Chaque fois que je découvre un nouveau domaine, j'ai besoin de me documenter, de creuser, de voilà. Donc, je suis un boulimique de la vie, un bon vivant aussi. Vous n'avez pas l'image, vous qui nous écoutez, mais je suis bien en chair. Donc, il y a évidemment un risque, d'abord, de se donner sans compter, ce qui est à la base une bonne chose lorsqu'on est prêtre. Mais il faut se ménager des temps de repos, de prière, de mise à l'écart. Le Christ le faisait. Il partait seul en prière, voilà. Donc, il y a un risque constant, il est grand chez moi, et je suis en réajustement constant. J'ai toujours tendance à prendre trop, et ensuite je réajuste, je corrige un petit peu, je prends une journée de désert, et tout va mieux.
Donc c'est quoi? C'est une question d'équilibre à trouver? Parce qu'on peut être dans la culpabilité de ne jamais faire assez.
Oui, je l'ai été. Au début de ma prêtrise, je l'ai été vraiment, au point de ne pas prendre ce fameux jour de repos des prêtres, qui n'est pas un jour de congé, puisqu'on est toujours prêtre, mais c'est un jour où on doit ralentir le rythme, où on doit faire différemment, et pour ma part, très concrètement, c'est un jour où je m'éloigne géographiquement de la cure, sans quoi je vais continuer, je ne vais pas m'arrêter. Donc j'ai besoin d'aller ailleurs, de m'éloigner un peu pour prendre ce temps. Et au début, je culpabilisais énormément dans cette journée, ce qui fait qu'elle n'était absolument pas réparatrice, puisque mon cerveau continuait à tourner en boucle en me disant que je devrais être là où je ne suis pas. Heureusement aujourd'hui, mais ça fait 10 ans quand même, hein, j'ai mis le temps depuis mon ordination, mais aujourd'hui j'arrive à prendre vraiment ce jour de repos et j'essaye de l'enseigner aux plus jeunes de mes confrères que je vois partir eux aussi dans cet activisme et dans ce trop-plein.
Vincent Lafargue, pourquoi est-ce que l'Église catholique ne s'intéresse pas plus aux expériences de mort imminente? On entend rarement des prêtres qui nous parlent des expériences de mort imminente. Vous l'avez vécu, donc vous êtes sensible à cela. Mais il y a très peu de prêtres qui en parlent, des évêques encore moins. Pourquoi?
Il y a deux questions que vous posez là. Pourquoi l'Église ne s'y intéresse pas plus? Pourquoi est-ce que les prêtres en parlent si peu? Pour moi, ce sont deux questions distinctes. L'Église commence à s'y intéresser. Justement parce qu'on a des témoignages de personnes religieuses qui tout à coup osent raconter ce qu'elles ont vécu. Et l'Église, après je dirais quelques décennies assez rationalistes, l'Église commence à retrouver l'autre côté de cette pièce que Jean-Paul II avait si bien décrite dans Foi et Raison, hein, Fides et Ratio. Il y a les deux. La raison, c'est bien, mais on n'atteint pas Dieu par la raison pure. Même si certains ont essayé de le démontrer, il y a un saut de la foi à faire à un moment donné. Et l'Église commence à nouveau, à mon sens, en ce 21e siècle, l'Église redevient mystique. En tout cas, mon Église redevient mystique.
C'est-à-dire qu'elle redécouvre la place du surnaturel quelque part.
Je pense qu'on peut le dire comme cela.
Qui l'a écarté en étant un peu gêné à cause du rationalisme.
Oui, et puis on est héritier aussi de siècles beaucoup plus obscurs dans ce domaine-là. Quand on a brûlé les sorcières, on n'était pas tellement dans le mystique. Hein. Donc l'Église retrouve une forme de confiance dans le surnaturel, une forme d'intérêt, mais sur la pointe des pieds. Vous avez raison dans le sens où elle s'y intéresse encore de manière un peu cachée ou de manière très prudente.
Mais vous pensez que par le biais des expériences de mort imminente, il y a là une voie qui pourrait nous aider à avancer dans notre réflexion spirituelle et notamment dans notre relation à la mort?
Je le pense parce que d'abord, les expérienceurs ne racontent rien qui soit incompatible avec le message de l'Église sur la vie éternelle et sur les fins dernières. Et donc, il y a là clairement à s'intéresser à ce que racontent ces personnes parce que c'est tout à fait ce que nous prêchons finalement. Si elles nous parlaient d'un juge qui les attend au tournant et d'une rencontre absolument terrible avec quelqu'un qui leur mettait sous les yeux tout ce qu'elles ont fait de mal dans leur vie, mais non. Ces personnes nous racontent la rencontre avec un amour, un être d'amour. Et c'est ce que nous prêchons. Donc l'Église aurait tout intérêt à s'intéresser à cela. Et puis l'autre partie de votre question concernait les prêtres. Et alors là, c'est tout à fait autre chose. Entre confrères, même les confrères qui ont vécu cette expérience-là n'en parlent pas en général. Et je n'ai pas encore compris pourquoi. Mais il y a vraiment une frilosité à échanger sur ces domaines-là. Les quelques-uns avec lesquels je peux en parler sont les prêtres qui, justement, sont versés dans le surnaturel. Les exorcistes, par exemple.
Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont vécu cette expérience-là qu'ils sont plus versés vers le surnaturel?
Certains, probablement, mais d'autres qui n'ont pas vécu cette expérience, mais qui s'intéressent à ce qui est mystique et surnaturel, sont plus enclins, en tout cas, à écouter ce message-là. D'autres sont vraiment très méfiants par rapport à tout cela, alors qu'ils accompagnent des gens dans la mort. Hein,
mais vous en parlez facilement avec votre confrère?
Non.
Ou... Non. C'est pas facile pour vous de témoigner de votre expérience de mort imminente
avec qui que ce soit. Avec qui que ce soit. J'ai l'air là de parler de manière fluide et tout à fait coulée, mais je suis à la torture.
Parce que ça vous est dur chaque fois de témoigner?
C'est très intime, en fait. Il y a quelque chose de très intime, et donc on va chercher très très loin dans les tripes quelque chose, une expérience extrêmement profonde et intime. Et donc je n'ai pas l'habitude de partager, je suis un être pudique, j'ai pas du tout l'habitude de partager mes sentiments intimes avec mes confrères, je ne le fais déjà pas avec les membres de ma famille, donc c'est dire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un devoir de témoignage quelque part aussi?
Oui, vous touchez une question délicate. Dans la responsabilité dont nous parlions tout à l'heure, que l'on ressent après ce genre d'expérience, il y a cette responsabilité de témoigner au monde. Elle est accentuée quand on est prêtre parce qu'on découvre que par notre baptême on est aussi prophète, qu'on a à témoigner de la bonne nouvelle. Et donc, évidemment, cette responsabilité, ce devoir de témoignage, il est fort en moi. C'est contradictoire parce que je le ferai beaucoup plus que je ne le fais en réalité si j'écoutais cette responsabilité-là. Mais en même temps, il y a le danger de passer pour des bêtes de foire, des animaux de cirque, hein, qu'on nous utilise pour mettre en avant certaines choses. Et ça, j'essaye d'y faire très attention. Je témoigne très rarement dans des médias généralistes, notamment comme le vôtre. Cela ne m'est arrivé que deux fois en 20 ans. Parce que il y a ce danger-là. On ne sait jamais comment la personne qui écoute ou qui reçoit le témoignage va l'utiliser.
Et vous n'avez jamais douté de cette expérience-là que vous avez vécue le jour de votre accident?
Jusqu'au moment où j'en ai parlé au chirurgien à qui j'ai raconté cela, j'étais dans le doute complet. Je me disais, j'ai rêvé, et peut-être que lui va m'expliquer qu'avec les produits que j'ai reçus, ce rêve est normal, que sais-je. À partir du moment où il m'a dit « Vous n'êtes pas fou, vous n'avez pas rêvé et les détails que vous donnez sont exacts », jusqu'au dialogue qui a eu lieu à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile de douter. Et ensuite, eh bien, il y a cette certitude de l'amour de cette lumière blanche dont je n'ai alors jamais douté.
Et qui vous habite encore.
Et qui m'habite complètement, et je dirais de plus en plus même.
Ouais. Pour terminer, Vincent Lafargue, une question que je pose assez souvent dans cette émission, c'est la question du sens de la vie. Mmh. Pour vous qui avez failli perdre la vie, qui avez eu une deuxième vie, quel est selon vous le sens de notre existence humaine?
D'abord carpe diem, profite du jour présent. C'est aussi un des messages que j'essaye de faire passer le plus souvent dans mes prédications. Hier n'existe plus. Demain, on ne sait pas si on le vivra un jour. Donc, profitons du moment présent. Vraiment, disons « je t'aime » aux gens que l'on aime. Et le célibataire que je suis le dit à mes amis les plus précieux. Voilà. Profitons vraiment de vivre le jour présent à fond. Ça, c'est, je dirais, la première chose. Nous sommes des êtres qui se sont jetés dans l'infini du temps, dans un infini aussi géographique. Les galaxies, tout ça donne le vertige, c'est extraordinaire. Et on est là, sur ce petit confetti qu'est la Terre, ici et maintenant. Et on a à vivre cette journée d'aujourd'hui du mieux qu'on le peut. J'aime arriver le soir et me dire, eh bien voilà, Seigneur, c'était une belle journée. Merci de m'avoir donné l'occasion de rendre service, de t'annoncer, de t'apporter à travers l'Eucharistie. Merci pour cette belle journée. Et à la fin de chaque journée, pouvoir se dire ça, c'est merveilleux, avec tous les pardons qui vont évidemment avec. Le sens de la vie pour moi, c'est donc d'abord ça, c'est vivre pleinement ce que nous vivons et le vivre non pas replié sur soi-même, mais donné aux autres. Les linceuls n'ont pas de poche, comme le disait récemment le pape François, on emporte avec soi que l'amour qu'on aura donné aux autres. Donc le sens de la vie, c'est donner, aimer, vivre pleinement l'instant présent. Pour moi, c'est déjà énorme tout ça.
Eh bien, merci beaucoup, Père Vincent Lafargue, de nous avoir accueillis ici, dans votre paroisse.
Avec joie.
Aigle, en Suisse. Et puis, merci pour ce témoignage que vous avez accepté de nous donner, ce que vous ne faites pas très souvent. Merci beaucoup de votre accueil.
Merci à vous.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Faure.